Allume la science, la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Les plus fidèles d'entre vous s'en souviennent peut-être. Il y a presque 2 ans, dans ce même studio, nous vous parlions du projet Human at Home, une expérience singulière et unique au monde menée en plein cœur de Montpellier. L'objectif, tester l'habitat du futur, ou plutôt l'habitat dont on ne voudrait pas dans le futur. Chaque année depuis 2018, donc, un binôme d'étudiants se sont installés dans un appartement dit connecté pour y vivre le plus normalement possible. Mais en coulisses, un consortium de chercheurs se sont activés pour recueillir un maximum de données grâce aux capteurs omniprésents dans l'appartement. Capteurs environnementaux pour mesurer l'humidité, la température ou la pollution, capteurs de lumière, de confort, domotique avec assistant vocal, objets connectés en tout genre, capteurs au sol encore pour décrypter votre démarche et d'éventuels troubles musculo-squelettiques, analyse du langage et même des capteurs à porter sur soi. Tout au long de ces 4 années, 13 laboratoires de recherche de l'Université de Montpellier et de l'Université Paul Valéry ont travaillé sur ce programme avec l'école des mines d'Alès et l'école d'architecture. Loin d'une expérience technologique, c'est un défi humain que Human at Home, HUT, a relevé pendant ces 4 années. Un défi que l'équipe a restitué la semaine passée lors d'une grande conférence. On en parle donc aujourd'hui avec notre invitée Anne-Sophie Casse. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans Allume la science. Vous êtes donc la coordinatrice du projet HUT depuis janvier 2020, c'est bien ça ?
C'est ça, depuis 2 ans.
Et vous êtes également professeure à l'IAE de Montpellier, spécialiste de marketing digital.
Au laboratoire Montpellier Recherche en Management.
Merci beaucoup. Alors mieux que Siri, mieux que OK Google, avec moi pour comme chaque semaine pour mener cette interview, la Smart Aline Perriot.
Bonjour.
Bonjour.
Une fois n'est pas coutume, notre deuxième partie d'émission passera cette fois-ci en première partie puisque le reportage de la semaine est un extrait de la pièce HUT Théâtre. La représentation a été donnée jeudi dernier à la salle des rencontres de la mairie et nous en parlerons avec Anne-Sophie Casse dans 5 minutes. Enfin, notre invitée de dernière minute sera Agnès Pesanti de la culture scientifique de l'Université de Montpellier. Elle nous parle du Festival du film scientifique Sud de Sciences qui débute aujourd'hui à l'université et qui est donc ouvert à tous. Allume la science, c'est parti, on commence avec HUT Théâtre et on se retrouve dans 5 minutes.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55, 54.
Ici SNIPS. Aucune présence détectée. Situation nominale. Message à tous les objets connectés de l'appartement. Vous disposez d'une minute pour effectuer vos autotests de contrôle de bon fonctionnement. C'est parti. Pas tous en même temps.
Accès refusé. Je ne vous reconnais pas. Veuillez dégager votre visage. Accès refusé.
Snips, laisse-moi entrer chez moi.
Chez moi ou chez toi?
Snips, laisse-moi rentrer.
Je voulais faire une blague. Tu ne me trouves pas drôle?
Non, je ne te trouve pas drôle, non. Et puis tu commences à me taper sur le système. Et pas ton système, mais mon système nerveux. Tu comprends ce que c'est? Bah non, t'es une intelligence artificielle. Alors tu peux pas comprendre. Allez, laisse-moi rentrer maintenant.
Accès autorisé. Bienvenue chez toi, Alice. Météo, temps nuageux. Température extérieure, 15 degrés. Température intérieure, 21 degrés. Taux d'humidité, 70%. Ouverture des fenêtres.
Yves, il n'y a plus de PQ.
Commande en cours. Papier toilette Lotus, 6 rouleaux.
Non, pas Lotus.
Commande annulée. Commande en cours, papier toilette, le trèfle, triple épaisseur, 6 rouleaux.
Merci.
Alice, tu ne t'es pas désinfecté les mains en rentrant.
Merci, Snips.
Alice, âge 20 ans, taille 1m59, poids 47 kg, indice de masse corporelle 18,6, indice correct. Indice de masse graisseuse, 22%. Indice faible. Il faut manger, Alice.
Mais je mange, hein. Je mange. Merci.
Rythme cardiaque, 145 battements par minute. État de stress détecté. Détends-toi, Alice. Aujourd'hui, c'est l'entretien mensuel avec un des chercheurs.
Ah oui, 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 c'est vrai. Tiens, pareil, la caméra, tout ça.
Bien sûr.
Bonsoir, Alice. Comment ça va aujourd'hui?
Ça va,
merci. Si tu devais me positionner ton bien-être sur les échelles de 1 à 10, en sachant que 10 c'est le plus haut niveau, où situerais-tu ton bien-être?
6.
Et penses-tu que les chercheurs ils peuvent avoir accès à ton bien-être sans jamais connaître ton mal-être?
Non. Déjà, 6, c'est un peu compliqué de faire comprendre quand j'ai pas très bien, alors les capteurs, les chercheurs, non.
Et te sens-tu à l'aise avec le fait qu'on sache un petit peu ce que tu fais, qu'on récolte un petit peu tes données dans l'appartement?
Oui, c'est un projet universitaire. Je sais que ça va pas sortir, en fait, de ce projet-là. Après, si demain on dit, ta voix a l'air enregistrée, tes discussions sont enregistrées, j'ai un peu moins à l'aise. Pourtant, j'utilise Google Assistant, Siri, ils connaissent tout sur moi, mais bon, pour l'utiliser, on est contraint de les accepter.
Je te remercie énormément d'avoir participé.
Merci. Moi, j'ai une petite question. C'est vous, comment vous réussissez vraiment à calculer, à voir mon bien-être avec les capteurs et tout ça, si vous y arrivez?
Alors pour commencer, Anne-Sophie Casse, peut-être une petite réaction à ce reportage. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de ce projet U-Théâtre?
Alors c'est un projet qui est né au démarrage en fait du projet UT, c'est-à-dire on a souhaité finalement créer un outil de médiation scientifique pour finalement peut-être aller au-delà de l'expérience scientifique et utiliser le théâtre comme un outil pour dépasser les frontières du possible. Le théâtre en fait scientifique avait pour objectif de rendre la science accessible à tous et on s'est dit que finalement pour mieux raconter le travail finalement qui avait été réalisé dans ce programme de recherche, et ben quoi de mieux que finalement de se mettre dans la peau d'éco-huteurs et donc les occupants de l'appartement observatoire pour vivre leur expérience. Donc c'est un projet qui est né et qui a été géré au départ par le professeur Alain Foucaran, l'ancien directeur de l'IUS, donc à l'université, et bon, qui a eu du mal à trouver sa place parce que c'est pas à la fois la culture, c'est pas aussi de la science en tant que telle, c'est finalement la rencontre des deux, et je trouve que c'est un projet qui finalement devrait être davantage utilisé pour que finalement la recherche ne soit pas déconnectée de la culture. Aujourd'hui, elle a toute sa place. Donc, alors, au départ, c'est un projet qui a été construit sur une plateforme collaborative d'écriture, en fait, de la pièce de théâtre, des scénettes. Les chercheurs ont pu y contribuer par leurs remarques pour qu'il y ait quand même une justesse, en fait, et une fiabilité des informations qui étaient données. Et puis après, ça a été ouvert à un grand nombre de personnes. Ça a été retenu pour les 80 ans du CNRS. Et puis petit à petit, ça s'est construit. Il y a eu deux résidences d'artistes. La dernière était au Chiasma à Castelnau, où on a commencé à tester la pièce. On a vu que finalement, le fait d'intégrer aussi les chercheurs dans la pièce en plus des comédiens, ça pouvait donner vraiment un vrai souffle et une vraie explication des questions de recherche qui étaient derrière le programme. Donc la pièce dont on vient d'entendre un extrait est finalement presque la troisième version. Et je crois qu'elle est très finalisée parce que finalement, on a réussi, je pense, à ce challenge en fait, de faire vivre une pièce de théâtre en spectacle vivant en intégrant la dimension scientifique du programme de recherche.
Et oui, donc on peut voir donc différents chercheurs qui exposent leurs projets à travers des vidéos qui sont projetées donc au sein de la pièce. Et la pièce, donc, elle était jouée par trois comédiennes, c'est bien ça?
C'est ça. Alors, il y a une comédienne qui était aussi en régie et qui gérait en fait l'intégration de tout ça. Il y a en fait, dans la pièce, il y a une comédienne qui joue finalement l'occupant, qui a été l'étudiant qu'on a eu pendant les 4 années. Et puis l'autre comédienne, en fait, elle joue l'assistant vocal, le fameux Snips, hein, qui était installé dans l'appartement observatoire. Et donc, c'est finalement aussi cette confrontation entre l'humain et l'intelligence artificielle, voir si on accepte ou pas, finalement, ce que nous dit une intelligence artificielle, voir l'interaction entre l'humain et la machine. Et tout ça, en fait, bien sûr, avec beaucoup d'humour. Et chaque fois, l'assistant vocal explique en fait à l'humain, tiens, on va demander l'avis de tel chercheur, etc. Donc, je fais partie des chercheurs qui ont enregistré une petite vidéo et qui, de par finalement notre explication, viennent éclairer scientifiquement les questions qu'on se pose au travers de la captation des données et de l'intelligence artificielle qu'on peut trouver aujourd'hui dans des logements connectés.
Alors, on va revenir donc sur le programme de recherche en lui-même. Donc, beaucoup de technologies ont été utilisées dans ce programme, mais ça reste essentiellement un programme de recherche en sciences humaines, c'est bien ça?
Oui, alors il est né au départ ce projet finalement de la confrontation de l'idée d'une collaboration entre à la fois des spécialistes de capteurs, donc le laboratoire l'Institut électronique des systèmes de l'Université de Montpellier, et puis des juristes. Au départ, c'était Dynamique du droit, maintenant c'est le LICEM. Leur objectif, c'est vraiment de comprendre les failles et puis ce qu'il fallait finalement mettre, comment faire évoluer les règles juridiques aujourd'hui pour entourer, encadrer finalement ces objets connectés. Donc, de cette collaboration est né ce programme de recherche et on a ouvert finalement ce programme de recherche à beaucoup de laboratoires. Il y en a 13. Donc, il y a effectivement beaucoup d'acteurs, à la fois des architectes, mais aussi des spécialistes du mouvement, des gens qui vont travailler en psychologie cognitive, des gens comme moi qui vont travailler en marketing. On n'aurait jamais imaginé finalement rencontrer une diversité. Et après, c'est vraiment une rencontre et un travail à la fois pluridisciplinaire, mais aussi interdisciplinaire, à l'intersection de nos disciplines, pour comprendre finalement une complexité qui ne pouvait pas se simplifier et qui aujourd'hui caractérise les environnements intelligents. Donc quand on réfléchit et quand on veut travailler sur les environnements intelligents, il me semble que c'est la seule manière finalement d'aborder en fait ces sujets.
Alors justement, pardon, la pièce de théâtre, elle donne la parole à quelques chercheurs pour expliquer leur projet. Et vous, vous y faites aussi une apparition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi il consiste votre projet à vous, qui êtes spécialiste de marketing digital?
Oui, alors c'est toujours très compliqué de dire qu'on fait de la recherche en marketing. Parce qu'on dit, c'est-à-dire, la recherche en quoi?
On a reçu une chercheuse en marketing la semaine dernière.
Oui, je sais, ma collègue, c'est vrai. Andrea Gourmelon. Effectivement, on travaille plutôt sur le comportement de l'usager. Donc ici, de l'occupant, des valeurs qu'on va attribuer en fait à ces objets connectés et notamment sur la question de la vie privée. En fait, les objets connectés et Snips, qui est l'assistant vocal, pour qu'ils fonctionnent et qu'ils créent de la valeur, il faut qu'ils captent nos données. Donc la question qu'on se pose, c'est finalement la frontière. On voit dans un appartement que même si on ferme la porte, on n'est pas dans un espace d'intimité. Les frontières, et encore plus avec la crise sanitaire qu'on vient de traverser, entre la sphère réelle et la sphère, on va dire, privée, la sphère publique, elles se sont les frontières se sont effacées. Donc aujourd'hui, la question, c'est finalement, est-ce qu'on peut utiliser toutes les données? Et avec ces données, comment on crée de la valeur pour l'usager? Quel bénéfice il va retirer? Mais après, avec toutes les interrogations qu'on peut avoir en termes d'éthique, en termes d'angoisse et de stress, on est malheureusement habitué à une surveillance numérique. Il y a un phénomène d'accoutumance, en fait, qui se crée. Au départ, les co-auteurs, forcément, font attention à leurs faits et gestes. Ils savent qu'ils sont observés. Ils ont consenti à être observés. Ils ont consenti à donner des données. Donc, ils ont un comportement un peu biaisé. Et puis, le naturel revient au galop. Et puis finalement, après, ils vivent dans leur appartement. C'est leur appartement, c'est plus du tout l'appartement hutte. Et finalement, ce phénomène d'accoutumance, il est là. Mais il n'est pas sans danger, en fait. Parce que bah, voilà, la question, c'est aussi de voir s'il y a une violation de la vie privée, comment les marques, en tant que marketeurs, vont gérer cette relation. Comment, in fine, dans le futur, la marque ne peut pas, finalement, via cette violation, avoir une dégradation de sa relation. Donc, c'est effectivement des questions marketing, mais plutôt sur le marketing social aussi, sur le bien-être. Qu'est-ce qui fait le bien-être de ces objets connectés? Voilà, donc c'est des questions... peut-être dont on n'a pas vraiment l'habitude d'entendre des chercheurs en marketing sur ces sujets-là. Mais voilà.
Et vous nous disiez donc que vous travaillez aussi avec Malo de Pincé sur ces questions. Donc Malo de Pincé, chercheur en droit, qui était ancien coordinateur.
Parce que les juristes voient bien que pour l'instant, il va falloir créer de nouveaux outils. Personne ne lit les conditions générales d'utilisation. Hein. Tout le monde les accepte par défaut parce qu'on ne va pas lire des pages de conditions générales d'utilisation. Donc ça, c'est effectivement c'est fait pour protéger les marques, mais pas du tout les utilisateurs. Donc la question, c'est la simplification de l'information. Mais d'un autre côté, il faut aussi donner la totale information. Parce que ça pourrait paraître suspect qu'on nous donne juste un Nutri-Score en disant bah, « Tiens, cet objet, il est respectueux ou pas de ma vie privée ». Oui, c'est utile, le Nutri-Score est utile. Maintenant, on a commencé à s'y habituer au niveau alimentaire, mais ça ne suffit pas. Donc, il faut construire des outils. Il faut voir si, effectivement, les personnes vont avoir un consentement éclairé. On voit bien tous les débats autour des cookies aujourd'hui et de la publicité digitale. Donc, c'est des questions qui vont à la fois intéresser les gens forcément du marketing, mais aussi, bien sûr, les juristes et les informaticiens, parce que derrière, il va falloir calculer, faire du scoring pour savoir, finalement, comment on va calculer ce risque, en fait, de l'intrusion dans sa vie privée. Voilà, qu'est-ce que font nos données, où elles sont stockées, comment elles transitent, comment elles vont être utilisées. On n'en est qu'au début. Voilà.
Alors, on l'a déjà dit, cet appartement, il était truffé de capteurs. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, justement, de ces capteurs et de ce à quoi ils servent?
Alors, on a, par exemple, mis tout le sol qui était connecté. Donc, on a été capable, en fait, de travailler sur les trajectoires, de développer un algorithme qui modélise, en fait, ces trajectoires. L'objectif, c'est de voir comment on se déplace au sein d'un habitat, ce qui était quand même assez unique. Parce qu'aujourd'hui, on a de la traçabilité de nos mouvements grâce à notre smartphone ou notre montre connectée. Mais à l'intérieur du logement, on ne l'avait pas. Et donc, voir, effectivement, peut-être que la façon dont on marche est révélateur, finalement, de l'état de santé de la personne, de son bien-être, et de voir effectivement, de croiser finalement des données de capteurs en tant que telles qui n'auront peut-être pas forcément un sens, mais de les croiser avec du vécu, du ressenti des occupants qui rentraient des informations sur leur carnet de bord, qui étaient interrogés tous les mois, ça va nous permettre de voir ce qu'est un état de bien-être en fait, comment ça se caractérise. Donc par la marche, on peut effectivement aussi voir qu'un sol connecté va servir aussi, par exemple, pour la détection de chutes. Donc, on peut imaginer plein d'implications et de préconisations dans d'autres secteurs, avec d'autres personnes que des étudiants. Si demain, on développe un EHPAD à domicile, peut-être qu'un sol connecté sera moins intrusif qu'un médaillon que la personne va porter sur elle. Donc, en fait, c'est une question aussi de voir comment, en fait, cette recherche qui a existé finalement dans le cadre de ce projet avec des étudiants puisse aussi servir finalement à d'autres projets et d'autres populations cibles qui pourraient être, par exemple, les seniors, la silver economy ou les personnes avec handicap. Donc, le sol en est un exemple, mais il y a 70 capteurs. Je vais peut-être pas tous les détailler.
On n'aura pas le temps. Pendant la pièce, d'ailleurs, vous parlez de l'ouverture à d'autres publics. Pendant la pièce, des questions sont envoyées au public donc, via une application. Donc, une des questions, c'était par exemple, pensez-vous que les objets connectés peuvent améliorer votre bien-être? À quoi ils servent ces questions?
Alors, ils sont issus d'un travail doctoral. Donc, il y a une thèse qui est menée au sein de HUT, avec deux directeurs de thèse, un spécialiste de la linguistique, des émotions, et l'autre spécialiste des capteurs. Donc, faut quand même imaginer une thèse avec deux directeurs de thèse complètement dans des disciplines différentes. Et Islem Bagouz, donc, qui est la doctorante, elle travaille effectivement à la fois sur le corpus qui a été recueilli pendant les entretiens, pendant les 4 années auprès des occupants, mais elle travaille aussi sur la façon dont on crée de l'émotion au sein de la pièce de théâtre. Et effectivement, le spectateur, on s'est dit qu'il fallait qu'il soit aussi acteur et qu'il puisse donner son avis. Donc cette interaction aussi avec la pièce de théâtre, elle est recueillie à l'aide d'une application où on interagit, on peut répondre à une question parce qu'a priori, on a une représentation, par exemple, du bien-être. Mais une fois qu'on a vécu et qu'on a vu la scène, la scénette qui vient de se passer, ben, on peut avoir une autre appréhension, une autre représentation.
Alors, on a parlé tout à l'heure de vie privée un petit peu. Comment est-ce qu'elles sont fixées, ces limites, par rapport au respect de la vie privée? Est-ce qu'il y a des règles? Qui est-ce qui garantit justement ce respect de la vie privée au sein du projet UT?
Alors, on a mis en place des outils qui n'existent pas dans la vie réelle, donc des consentements par capteur, avec un code couleur, avec un scoring. Donc, les personnes savaient si c'était des données personnelles, des données sensibles, non sensibles, etc. On a mis en place, donc en plus d'un contrat de bail qu'on va signer, de location, etc., les personnes ont signé un consentement. On leur a demandé à la fin de l'expérience s'ils se souvenaient de ce consentement, pourquoi, etc. Ils avaient aussi la possibilité d'avoir un bouton d'arrêt de la connexion. Alors, on n'arrête pas la captation des données, mais par contre, ce qu'on arrête, c'est la transmission des données aux chercheurs. Ce bouton n'a jamais été actionné. Donc, en fait, le fait qu'il n'y ait pas cette action nous parle, en fait, hein, et nous dit que, finalement, les personnes et ce qu'on a mis en place rassuraient complètement les occupants. Ce n'est pas aussi sans stress, hein, parce qu'on l'a vu qu'il y a effectivement du stress.
Dans la pièce de théâtre, vous mettez en scène ça, justement. À un moment donné, la co-huteuse... le rythme cardiaque qui s'accélère, un moment de stress, c'est vraiment arrivé ça, de se sentir oppressé par la surveillance, entre guillemets?
Oui, alors c'est arrivé à plusieurs moments, c'est arrivé par exemple une coupure de courant, donc là tout clignote et on ne sait pas comment remettre tous les capteurs en marche, donc ça a un effet assez anxiogène. Après c'est arrivé quand ils ont mouillé le sol et le sol ne devait pas être mouillé puisqu'il y avait des capteurs au sol, donc la tasse de café qui tombe là, c'est un drame. Alors ça paraît pas être un drame dans la vie quotidienne, mais là ça l'était. Il y a eu des événements comme ça qui fait que, en fait, on voit qu'il y a un stress. D'ailleurs, ils portaient un bracelet Empatica, qui est un dispositif qui permet de voir l'évolution, justement, de la fréquence cardiaque ou de l'activité électrodermale, ce qui permet de caractériser quand est-ce qu'il y a eu un pic et donc un stress. Et on a différencié dans les travaux, notamment que je mène avec l'équipe marketing, de savoir si c'est un stress aigu ou c'est un stress chronique. Et de voir comment l'individu, c'est une doctorante à moi, Pauline Roque, qui travaille justement sur ce sujet, comment on revient à l'équilibre. C'est-à-dire finalement, comment on passe ce passage de pic de stress et qu'est-ce qui fait que l'individu va développer des stratégies d'ajustement par rapport au stress qu'il va ressentir. Donc effectivement, la pièce est inspirée de situations réelles qui ont été vécues par les occupants et qui nous font sourire aujourd'hui.
Dans ces situations, justement, vous nous parliez aussi du Covid. Il y avait un étudiant qui était là pendant le confinement, en fait.
En fait, chaque fois qu'il y a eu des périodes de confinement, parce que malheureusement, nous en avons eu quelques-unes, il y a eu toujours une personne qui est restée dans l'appartement et une personne qui est sortie. Ce qui nous a permis de poursuivre, hein, finalement, cette expérience, de voir le ressenti. L'impact, en fait, du Covid, c'est aussi une présence H24 dans un appartement avec beaucoup de capteurs et donc un sentiment quand même de mal-être, où on a l'impression qu'on entend les capteurs. Donc, même dans la perception qu'on va avoir, on se sent avec une surveillance qui génère du mal-être. Donc, c'est vrai que ça, on ne l'avait pas eu au départ, parce que la personne, elle sort, elle est libre de sortir, de rentrer dans son appartement. Là, pour le coup, non. Donc, on a eu effectivement des résultats. La luminosité, l'ambiance sonore, hein, paraît primordiale, notamment pour aménager l'espace différemment. Et donc, le salon est devenu une salle de sport pendant le Covid, etc. Donc, on voit comment, en fait, on s'approprie les espaces dans, finalement, une contrainte qui a été imposée à tout le monde. Et comment, finalement, des capteurs et des objets connectés, comme les ampoules connectées, peuvent jouer un rôle pour créer des ambiances et marquer le temps. Parce que finalement, les étudiants, ils ont presque perdu la notion de temps et d'organisation. Donc, l'appartement connecté pendant le Covid, c'est plus un appartement coach de vie qui nous dit quand est-ce qu'il faut se lever, la to-do list, quand est-ce qu'il faut faire une activité, quand est-ce qu'on met telle lumière, etc. Et ça, c'est intéressant parce que bah voilà, on n'aurait pas imaginé, bon, on ne souhaitait pas quand même le Covid, mais on n'aurait pas imaginé que, que ça avait cet impact-là. Oui,
expérience totale.
Et justement, l'expérience, comment est-ce qu'elle va se poursuivre maintenant? Est-ce que le programme est terminé ou est-ce qu'il va reprendre plus tard ou sous une autre forme?
Alors, la phase 1 est terminée, on rend les clés d'appartement lundi, donc là, il n'y a plus d'appartement observatoire. En revanche, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récolté des données en continu pendant 4 ans, on ne les a pas vraiment analysées. Donc, on n'a pas eu le temps tellement de commencer à les analyser. Donc, ça commence. Donc, je pense que les résultats de cette phase 1, ils vont se poursuivre, même si on a eu un colloque scientifique super intéressant la semaine dernière. Donc, ça, c'est que le démarrage, en fait, de l'exploitation scientifique des résultats. Et puis, certains chercheurs ont créé un jumeau numérique. Donc, UT va exister au niveau virtuel avec les données qui ont été collectées en réel. Donc, ça va pouvoir aussi permettre des simulations et continuer finalement à travailler sur ce projet, même si l'appartement physiquement n'existe plus. Et après, ce qu'on a envie, c'est d'ouvrir le panel. Pour l'instant, on était sur 2 étudiants par an. On va travailler sur une cohorte d'étudiants qu'on va appeler les UTeurs et on va les recruter au sein de notre université, au sein de l'université Paul Valéry, des écoles qui en sont associées au projet. Pour finalement, cette fois-ci, tester et considérer qu'on ne va pas aménager des capteurs dans un logement, mais que le citoyen sera le capteur. Et donc, travailler sur la mobilité, travailler sur l'éco-responsabilité, travailler sur la santé globale. Donc, il y a plein de thématiques qui vont être créées dans le futur. Et UT sera une plateforme interdisciplinaire au service, finalement, de l'étude du bien-être et la santé globale de nos étudiants.
Un grand merci Anne-Sophie Caz, on avait encore plein de questions, on aurait pu en parler pendant une heure je pense, mais on reviendra quand vous aurez des publications du coup.
Tout à fait, merci en tout cas à vous.
Merci à vous. Et on accueille maintenant Agnès Pesanti. Bonjour Agnès.
Bonjour.
Et donc bienvenue dans Allume la science. Donc tu viens nous parler aujourd'hui du festival Sud de Science, alors est-ce que tu peux nous dire ce que c'est?
Alors Sud de Science, c'est un festival du film scientifique qui est piloté par l'Université de Montpellier, avec nos partenaires, que sont les organismes scientifiques tels que le CNRS, l'INRAE, l'INSERM et l'IRD. Je tiens aussi à préciser quand même que c'est un festival qui est coordonné par l'association Kimio, il ne faut pas que je les oublie.
C'est un festival de films scientifiques. Combien de films sont diffusés cette année?
Alors cette année, on a une belle édition. On est ravis d'ailleurs.
C'est la cinquième, on le précise.
C'est la cinquième. Cette année, nous affichons 7 films documentaires longs-métrages de catégorie professionnelle et 6 films courts-métrages réalisés par des étudiants. Ça, c'est la grande nouveauté. Nous avons effectivement lancé une catégorie, un appel à films, en fait, auprès des étudiants au niveau national. Et on a sélectionné, en fait, 6 très jolis courts-métrages. Alors, évidemment, des films scientifiques, des courts-métrages scientifiques réalisés par des étudiants. Chaque projection va permettre d'assister un court-métrage réalisé par les étudiants, suivi d'un long-métrage. Et puis, évidemment, ça c'est l'ADN du festival, une discussion avec un ou une chercheur spécialiste du sujet. Et le public en présence a ainsi la possibilité de poser toutes les questions et d'approfondir la thématique du film.
Alors, c'est quoi les thématiques? J'ai vu qu'il y avait un film sur le climat. Qu'est-ce qu'on a d'autre, rapidement?
On va pouvoir découvrir un processus complexe auquel notre corps ne prête même pas attention avec la projection de la respiration, une savante mécanique. On va pouvoir aussi s'interroger sur notre inertie face à l'urgence d'une catastrophe climatique imminente avec la projection de « Climat, mon cerveau fait l'autruche ». Mais aussi découvrir le lien entre la pollution sonore et le comportement animal dans le film « Quand les hommes ne sont pas là, les animaux », point de suspension. Très 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 joli film qui a été tourné au moment du Covid, où on voyait que les animaux avaient repris leur place dans la cité. Et puis enfin, partir à la rencontre de celles et ceux qui œuvrent quotidiennement à une lutte pour la santé publique avec Vaincre le paludisme.
Programmation variée. Ils sont diffusés où ces films?
Ces films vont être diffusés dans 3 lieux. L'ouverture officielle se fait à la médiathèque Albert Camus de Clapiers.
Donc ça c'est ce soir à 18h30.
C'est ce soir à 18h30 avec un très joli film Mamody, le dernier creuseur de Baobab, réalisé par Cyril Cornu et il sera là pour parler du film, c'est en sa présence. Et puis ensuite, le festival s'installe à la médiathèque centrale Émile Zola de Montpellier, du jeudi au dimanche. Et nous avons également une séance à 7h. au cinéma Comédia à 7.
On la retrouve où cette programmation ?
On la retrouve bien sûr sur le site www.suddesciences.fr. Les lieux ont été choisis en concertation avec la ville de Montpellier et la métropole qui met à disposition ses équipements pour les projections. Et puis enfin, il faut rappeler que le public va être invité à voter. Alors, le vote pour la catégorie du film étudiant se fait déjà en ligne. On peut tout visionner, hein, les 6 courts-métrages, et voter d'ailleurs sur la chaîne YouTube Sud de Science. Pour le film de la catégorie professionnelle, le vote se fera en salle, au fil des projections, via un QR code qui sera affiché directement à l'écran.
Un grand merci Agnès.
Merci
pour
beaucoup.
Pour toutes ces précisions.
Et à très bientôt.
À très bientôt. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Naomi Charmetan et Tom Chevalier pour la réalisation de cette émission. C'était la première. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science, la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.